Soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Prague. Voici, pour commencer, les informations. La Chambre des députés a approuvé la prolongation de la mission des policiers militaires tchèques en Irak. Ils continueront à entraîner les forces de l'ordre irakiennes. Les parlementaires ont décidé de prolonger leur mission jusqu'au 31 décembre prochain. L'hôpital mobile tchèque déployé dans le sud du Sri Lanka est prêt au service. L'ouverture d'une salle d'accouchement ce vendredi sera suivie par la mise en service d'autres unités dont surtout pédiatriques. L'hôpital mobile remplace les établissements détruits par le tsunami. Plusieurs organismes humanitaires et volontaires tchèques apportent leur aide aux régions sinistrées par la catastrophe naturelle en Asie. L'argent collecté sur les comptes d'aide a dépassé la somme de 273 millions de couronnes. La société L'Homme en détresse veut réaliser au nord-est du Sri Lanka le projet de retour de 2300 familles des camps de réfugiés pour lesquels elle veut édifier des logements dans le courant de 2 prochains mois. Le ministère des Affaires étrangères de République tchèque a extradé du pays un diplomate biélorusse, réagissant ainsi à l'extradition du diplomate tchèque Pavel Křivohlavý de Biélorussie. Une information du porte-parole du palais Tchernin, Vít Kolář. Le chef de l'ambassade tchèque à Minsk a été convoqué à Prague. 14 membres de la Commission européenne, dont le commissaire tchèque Vladimír Špidla, ont prêté serment devant la Cour de justice européenne à Luxembourg, dans lequel ils s'engagent notamment à une indépendance absolue des gouvernements de leur pays. L'État tchèque envisage la possibilité selon laquelle tous les camions qui traversent la frontière tchèque seraient obligés d'acheter une vignette, peu importe s'ils utilisent les autoroutes ou les voies rapides. L'objectif est de freiner la hausse du nombre de camions qui transitent par la Tchéquie après que l'Autriche et l'Allemagne aient introduit un système de péage et avant que le péage électronique ne soit pas introduit dans notre pays. Lors d'une opération Y orientée sur la sécurité routière, la police a contrôlé jeudi presque 19 000 automobiles. Dans presque 3 500 cas, les chauffeurs ont commis une infraction le plus souvent en dépassant la vitesse autorisée. Météo, la pluie et la neige ont levé la surface des rivières à l'ouest de la Bohême. Un vent vigoureux affecte la Tchéquie. Les températures varient entre moins 3 et 5 degrés. C'était les informations par Jarka Gisublova.
Faits et événements en République tchèque. Magda Segertova.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague, à la une de la récente visite du chancelier autrichien Wolfgang Schüssel à Prague, l'ouverture du marché du travail autrichien au Tchèque et la centrale nucléaire de Temelín ont été parmi les thèmes majeurs de ces entretiens avec les dirigeants tchèques. L'investiture du président américain George Bush a été au centre de l'attention des médias tchèques, et inaperçu de leurs commentaires sur l'événement dans cette émission. Le grand couturier français Christian Dior aurait fêté ce vendredi son 100e anniversaire. Comme vous allez l'entendre, la marque Dior est bien connue des Tchèques et ceci depuis les temps du communisme. La dernière visite d'un chancelier autrichien à Prague remonte à 10 ans. Ce jeudi, le chancelier Wolfgang Schüssel a rencontré dans la capitale tchèque le premier ministre tchèque Stanislav Gross et le président de la République Václav Klaus. Alain Slivanski.
La question de la centrale nucléaire de Temelín et les décrets du président Beneš avaient envenimé les rapports entre la Tchéquie et l'Autriche ces dernières années. Pour cela, bien que les plus hauts représentants autrichiens, dont Wolfgang Schüssel, n'aient pas dédaigné la Tchéquie, leur visite ne pouvait être qualifiée d'officielle. Le chancelier autrichien actuel a décidé de rompre une certaine réserve entre les deux pays. Ce jeudi, il était l'hôte du premier ministre tchèque Stanislav Gross et du président de la République tchèque Václav Klaus. Avec le premier ministre tchèque, il a surtout été question de la libre circulation de la main-d'œuvre, encore plus de la hausse du nombre de camions traversant les deux pays après l'entrée de la Tchéquie dans l'Union européenne, mais aussi de la future constitution européenne. Nous avons abordé un grand nombre de thèmes. En premier lieu, nous avons fait un examen des relations actuelles. Il est clair que le niveau des rapports entre la République tchèque et l'Autriche est des plus élevés. Cette constatation concerne aussi bien la sphère politique que la sphère économique. Le chancelier autrichien Wolfgang Schüssel a exprimé la même conviction en ajoutant: je suis venu à Prague et ce n'est pas pour la première fois, mais c'est ma première visite qui peut être qualifiée vraiment d'officielle. Je pense que c'est un signal important pour le développement des relations entre nos deux pays, au plus haut niveau d'ailleurs. Au programme de cette visite se trouvent des rencontres importantes, depuis celle avec le président, le premier ministre, les différents ministres du cabinet, les présidents des deux chambres du Parlement, mais aussi celle avec les représentants des autorités locales. Que retenir de cette visite officielle du chancelier autrichien Wolfgang Schüssel? Un accord avec les autorités tchèques sur la nécessité de réguler le transport routier en Europe centrale. Les camions devraient emprunter beaucoup plus les chemins de fer, afin que les autoroutes tchèques et autrichiennes ne soient pas saturées et donc dangereuses. L'Autriche n'ouvre pas encore son marché du travail aux Tchèques. Le chancelier autrichien affirme que l'Autriche participe à la création d'emplois en Tchéquie par des investissements, ce qui est préférable à la fuite des cerveaux. Identité de vue entre le premier ministre tchèque et le chancelier autrichien sur la nécessité d'adopter la Constitution européenne, qui donne plus de droits aux petits pays. La même harmonie n'a pas été reçue lors de la rencontre de Wolfgang Schüssel avec le président de la République, Václav Klaus. Concernant la Constitution européenne, le commentaire du porte-parole du président est clair. Les deux personnalités ont eu un échange de vues sur cette question. À noter que la question des décrets du président Beneš ou celle de la centrale nucléaire de Temelin n'ont pas été évoquées. Pourtant, le chancelier autrichien a laissé entendre qu'à l'occasion du 60e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un geste de la part de la Tchéquie envers l'ancienne minorité allemande serait le bienvenu.
La presse tchèque de ce vendredi réserve une grande place à la seconde investiture de George Bush et au discours qu'il a prononcé à cette occasion. Alena Gebertova l'a lu pour vous.
Le quotidien Lidové Noviny consacre à l'événement 3 pages entières. Outre la description de la cérémonie et de grandes photos, on y trouve quelques analyses prudentes se rapportant au nouveau cabinet américain, appelé par le journal « Gouvernement des fidèles », ainsi qu'au discours d'investiture de Bush. À l'image d'autres médias tchèques, Lidové Noviny fait à ce propos état de la fréquence du mot « liberté » et de l'omission du mot « terrorisme ». Le journal soulève aussi la question de savoir si le président tchèque Václav Klaus, qui s'était déjà rendu à plusieurs reprises aux États-Unis, mais jamais à titre officiel, sera enfin reçu à la Maison-Blanche. La liberté, tel était le mot clé du discours d'investiture de George Bush, qui affirmait vouloir proliférer la liberté dans les coins les plus sombres du monde, note également Mladá Frontanes. Qu'entendez-vous de Bush ? A en outre demandé le quotidien le plus lu dans le pays à plusieurs personnalités tchèques. Si les opinions sont polarisées, la majorité des sondés espère tout de même la stabilisation de la situation au Proche-Orient et la consolidation des rapports avec les partenaires européens. J'aime bien la politique du président américain. J'espère fermement qu'il continue à lutter contre le terrorisme, affirme le nouveau président du Sénat, Przemysław Sobotka. Le chef de la diplomatie, Cyril Svoboda, souhaite que la fermeté et les idéaux de liberté guident Bush au cours de son second mandat. En revanche, Peter Feig, directeur du jardin zoologique de Prague, craint l'influence de Bush sur les événements dans le monde et les retombées graves de sa communication avec le monde arabe. Vers le même but, mais d'une autre manière, titre un commentaire dans Hospodarské noviny de la plume de Adam Černý, dont je cite « Dès que les armes de destruction massive n'ont pas été retrouvées en Irak, la Maison-Blanche a opté pour une nouvelle rhétorique, celle de la lutte contre les régimes despotiques. Son contenu donne dorénavant à réfléchir aux dirigeants d'Arabie Saoudite et d'autres pays du Proche et du Moyen-Orient, avec lesquels les États-Unis n'avaient pas de lien de valeur partagée, il est vrai, mais ceux de réelle politique. »
Thank you.
Quand j'étais enfant, il y avait dans cette rue qu'une boucherie et en bas de notre immeuble, une crèmerie. Le seul magasin de luxe était la boutique Dior. C'est ainsi que la plasticienne Darina Alsterova a décrit pour le magazine Instinct la rue Pachichska, en français parisienne, celle qui mène de la place de la vieille ville au quai de la Vltava et qui est vraiment un des coins les plus chics de la capitale. C'est donc ici, au cœur historique et touristique de Prague, que l'Empire Dior installe en plein communisme à la fin des années 70 sa boutique. Une fenêtre sur la mode et les produits de beauté français auxquels les femmes tchèques ont toujours été sensibles. Et si, depuis 89, un peu tous les fabricants de produits de beauté et créateurs mondiaux leur font la cour, la marque Dior, dont le fondateur aurait fêté ce vendredi son 100e anniversaire, tient ici une place privilégiée. Depuis 4 ans, Dior a 2 fiefs à Prague. La boutique de la rue Pachichska, bien sûr, boutique prêt-à-porter, souliers, maroquinerie et joaillerie. À 20 minutes de marche de là, dans la rue Vtselnice, à proximité de la place de la République, vous trouverez un salon esthétique et une parfumerie Christian Dior, ayant déménagé de la rue Pachichska et s'appelant aussi, attention à la confusion, la boutique Dior. 13 esthéticiennes s'y occupent du bien-être des clientes. Ivana Divicheva, employée chez Dior depuis 3 ans, est chargée de leur formation et des relations publiques.
Notre salon est la principale boutique Dior parisienne, proposant des services absolument identiques, tant au niveau de la qualité qu'au niveau de la valeur des soins. Nous appliquons les mêmes méthodes et utilisons les mêmes produits Dior, visage, du corps, de la manucure et pédicure, des massages et du maquillage. De temps à autre, des visagistes de la maison Dior de Paris viennent conseiller notre clientèle. Ces dernières, et il est vrai, principalement françaises, elles se recrutent parmi les Français installés à Prague. Mais nous avons aussi évidemment des clientes tchèques. Nous avons une clientèle fidèle, celle qui a été habituée à se faire soigner chez nous lorsque nous étions encore à notre ancienne adresse, rue Pachichska.
L'hiver vous paraît trop long, vous pouvez déjà songer au maquillage Dior pour le printemps et l'été 2005. Ivana Divicheva est bien placée pour vous renseigner.
Je viens d'assister à une rencontre d'esthéticiens Dior à Paris. En fait, la collection maquillage doit être, côté couleur et style, toujours en harmonie avec la collection prêt-à-porter présentée par Galliano. En ce début d'année, il sort une collection Havaï, haute en couleur, avec des teints orange, bleu, vert. Nous lançons par exemple un mascara rouge ou encore, et c'est une grande nouveauté cette année, des rouges brillants lèvres avec des effets piercing, inspirés d'une des précédentes collections Galliano où des sacs à main ont été décorés justement du piercing.
Je dois admettre que je suis fan de tout ce que tu émanes. Un éloge chic de la France à la beauté qui n'en a pas conscience. Éloge à ta beauté vis-à-vis.
L'actualité culturelle au château de Prague avec Václav Richter.
Les œuvres d'art ont une histoire. Cet aspect des objets d'art sera souligné par une série de manifestations présentées dans la galerie du château de Prague et consacrées à l'existence de plusieurs chefs-d'œuvre de la peinture à travers les siècles. Il s'agira d'expositions démontrant que souvent les tableaux ont une vie difficile et que leurs aventures et les vicissitudes de leur existence sont aussi variées et intéressantes que celles des hommes. Selon Alena Velika de l'administration du château de Prague, les visiteurs intéressés par ce projet sont invités à la galerie du château de Prague à partir de ce vendredi.
C'est sous le titre La galerie au microscope que l'administration du château de Prague inaugure le vendredi 21 janvier un nouveau programme destiné surtout aux amateurs de l'art ancien. La première exposition de la série, qui sera ouverte jusqu'au 13 mars, présentera aux visiteurs la méthode très compliquée qu'on a utilisée pour la restauration du tableau « Le paysage antique » de Johann Franz Hermels. Le cycle des conférences et des expositions thématiques sont étroitement liés à la galerie du château qui possède une des collections les plus renommées en Europe. La série des programmes spéciaux préparés à cette occasion est centrée sur des thèmes particuliers, les micro-histoires cachées de diverses œuvres d'art et ensembles d'œuvres d'art sur leur passé et leur existence actuelle, thèmes qui seront présentés aux visiteurs, si j'ose dire, comme sous un microscope par des spécialistes.
En même temps commence au château une exposition intitulée « La cathédrale sous les échafaudages ». Il s'agit d'un projet consacré à la cathédrale Saint-Guy qui domine le château et la ville. Alena Velika.
Le projet « La cathédrale sous tous les angles » est inauguré par une exposition qui se propose de faire connaître aux visiteurs le processus interminable de l'entretien de la cathédrale Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert. L'exposition sera installée à la cathédrale Saint-Guy et on pourra la voir jusqu'au 10 mai prochain.
Výstava bude instalována v příčné lodi katedrály a to až do 10. května tohoto roku.
C'était Fais événements en République tchèque. Bonne écoute de la suite de notre programme.
Bonjour. Dans les mois précédant l'adhésion de la République tchèque à l'Union européenne, mais aussi après cette date clé, la presse tchèque n'a cessé de titrer que les Tchèques n'étaient pas en mesure de toucher les subventions européennes qui leur sont réservées et que celles-ci risquaient de leur passer sous le nez. Quelle est la part de polémique et de vérité dans ces déclarations quelque peu alarmistes et quelle réalité se cache derrière ces craintes? Agnès Vadé est allée poser la question à Christian Bourguin, chef de la représentation de la Commission européenne à Prague.
Oui, il est possible qu'il y ait eu des polémiques. Évidemment, dans certains cas, on peut imaginer que certains journalistes ou certains médias aient eu un intérêt à répandre des mauvaises nouvelles ou à critiquer les autorités nationales pour leur éventuelle insuffisance dans la préparation. En même temps, il y a parfois aussi un peu de doute, de manque d'assurance de la part, je dirais, de tous les nouveaux États membres. C'est pas spécial aux Tchèques. Je crois pas qu'il y ait une grosse part de vérité. C'est-à-dire, c'est clair que pour tous les nouveaux États membres, mettre en œuvre les fonds structurels, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup d'administration. Et aussi, c'est une nouveauté. Donc, a priori, ça ne va pas aussi facilement qu'on aimerait que ça se passe. Il y a forcément des délais, il y a forcément des hésitations, mais les Tchèques ne sont pas plus mauvais que les autres. Il n'y a pas des retards qui soient inquiétants. Il n'y a pas non plus d'incapacité ou de manque qui pourrait laisser penser qu'ils ne seront pas capables de tirer profit des fonds structurels. C'est beaucoup trop tôt actuellement pour dire qu'on a des craintes ou que quelqu'un devrait avoir des craintes quant à l'absorption des fonds.
Si les médias tchèques se sont quelque peu agités, c'était avant tout par simple crainte. Autre facteur qui a pu porter à l'alarmisme, la suspension momentanée des versements des fonds de préadhésion phare, comme nous l'explique Christian Bourguin.
Les règles pour les instruments de préadhésion, comme il s'agissait de règles concernant des États tiers, sont plus contraignantes, sont plus difficiles. Et pour cette raison, à partir du moment où ils devenaient États membres, on avait prévu dans le programme phare de leur donner l'entière responsabilité pour la gestion de cet instrument. Alors, pourquoi ils n'ont pas été capables tout de suite de remplir toutes les conditions? Alors, je dirais que c'est essentiellement pour des détails, mais bon, des détails qui sont peut-être quand même à la fin importants, évidemment, des détails, disons, d'administration. Il fallait que les autorités tchèques remplissent un certain nombre de conditions en matière d'organisation interne, etc., qui, au moment de la date clé, de la date de coupure, là où on devait leur transmettre le relais, toutes ces conditions n'étaient pas totalement remplies. Donc pendant 3 ou 4 mois, la chose qui a été arrêtée, c'est la signature des contrats.
Si les contrats ont donc été suspendus en attendant que les administrations tchèques corrigent leurs erreurs techniques et d'organisation, Le pipeline des projets, c'est-à-dire les procédures d'appel d'offres, de sélection, de décision, a suivi son cours, souligne Christian Bourguin. Et le préjudice pour les personnes qui attendaient le versement de ces fonds n'a pas été très grave. Un peu d'attente et d'inquiétude, mais pas de perte d'argent. Débloqués à la fin novembre 2004, les fonds de préadhésion ont atteint sans tarder leurs bénéficiaires. Pour relever quand même quelques faiblesses du côté tchèque, on pourrait évoquer la question de l'intégration des lois communautaires dans la législation nationale, qui n'a pas toujours été accomplie dans les temps et dans les règles. Christian Bourguin.
C'est vrai qu'il y a un domaine dans lequel ils sont venus un peu tardivement, c'est le domaine des appels d'offres publics. Il y a dans l'Union européenne des règles qui s'appliquent en matière d'appels d'offres publics. Ces règles sont essentielles pour tout ce qui est les appels d'offres lancés dans le cadre des fonds structurels. C'est clair que puisque ces règles sont d'abord des lois communautaires, des lois de l'Union européenne, il faut encore plus qu'elles s'appliquent lorsque c'est l'argent de l'Union européenne qui est en cause. Et la loi tchèque qui met en application ces règles de l'Union européenne en matière d'appels d'offres publics a été adoptée seulement fin 2003. Ils sont un peu en train de courir derrière, quoi. Bon, l'autre aspect aussi, c'est qu'ils ont été un peu tard à adopter les règles de l'Union européenne en matière de protection des sites naturels, ce qu'on appelle Natura 2000. Et la protection des sites naturels, on peut avoir ce problème, par exemple, pour les grandes infrastructures qu'ils envisagent pour bénéficier du fonds de cohésion. Mais bon, là aussi, ce n'est pas un problème rédhibitoire, mais il faut qu'ils tiennent compte de la nécessité de former les administrations à prendre en compte, justement, les contraintes de Natura 2000.
2004, année de l'adhésion, aura été l'année des mises en place, des ajustements, des hésitations. 2005 ouvre grand ses portes à l'absorption de fonds structurels ou de cohésion, fonds auxquels la Tchéquie, comme tout pays membre de l'Union européenne, a droit. Pour s'assurer que les procédures d'absorption des fonds structurels se dérouleront comme il se doit, le ministère tchèque des Finances a d'ailleurs, sur sa propre initiative, commandé un audit auprès de PricewaterhouseCoopers. Les fonds structurels, c'est 2,5 milliards d'euros à la clé, soit 75 milliards de couronnes pour la période 2004-2006, répartis entre plusieurs programmes sectoriels, dont un est dédié au soutien des entreprises.
Il en représente, pour l'ensemble des fonds attribués sur la période 2004-2006, environ 18%. Et ça, c'est pour favoriser le cadre général, par exemple, favoriser le développement d'incubateurs pour développer de nouvelles entreprises ou créer des parcs industriels, etc., pour permettre aux entreprises de s'établir et de se développer, plus des mesures aussi concernant les entreprises elles-mêmes avec des subventions individuelles. C'est un programme qui fonctionne bien, qui est essentiellement destiné évidemment aux petites et moyennes entreprises, parce que dans le cadre des fonds structurels, comme dans le cadre d'ailleurs de l'ensemble des politiques européennes, on doit éviter évidemment de tordre la concurrence. Et donc les grandes entreprises en général n'ont pas accès à ces fonds-là. Mais c'est un programme qui fonctionne bien et je crois qu'il prouve qu'il y avait beaucoup de demandes et beaucoup de besoins dans ce domaine. Il y a un certain nombre de programmes et de mesures individuelles à l'intérieur et celles qui marchent le mieux, ce sont des mesures classiques, des mesures classiques pour aider au développement des entreprises. Le savoir-faire, enfin le développement des capacités de développement d'une entreprise, comment être compétitive, comment faire un plan de gestion, un plan de marketing, etc. Et puis trouver des nouveaux marchés, donc tout ce qui peut leur permettre de développer la capacité dans ces domaines-là.
Un cinquième des fonds venant de Bruxelles ont été alloués pour 2004-2006 à l'aide aux entreprises. Pour la période 2007-2013, ce sont les régions qui pourraient être les grands bénéficiaires.
Les priorités, ce sont les Tchèques qui devront les définir. C'est classique dans les programmes de développement régionaux. C'est d'abord la première mouture du plan pour l'ensemble de la période. Ce sont les autorités nationales qui le définissent. Elles devront, d'ici à fin 2007, proposer ce qu'on appelle un plan stratégique. Et là, il est probable effectivement qu'elles incluront beaucoup de mesures pour les entreprises. Mais c'est trop tôt pour le dire. Si on voit leur plan de 2004-2006, ils ont donc accordé environ un cinquième du montant pour les entreprises. Il y a toujours beaucoup de priorités qui rentrent en concurrence. Les infrastructures, ça, traditionnellement, ça absorbe beaucoup d'argent. Et puis, je pense qu'en 2007-2013, ils vont vouloir mettre l'accent sur les questions régionales, que les autorités tchèques et surtout les autorités régionales tchèques vont insister pour qu'il y ait des plans spécifiques pour chaque région.
C'est ainsi que se termine cette rubrique économique et avec elle nos programmes en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention et de votre fidélité. À bientôt sur nos ondes.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz.